From the conference center at Temple Square.
Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la session de la prêtrise de la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette session est diffusée à des milliers d'églises de par le monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de Melchizedek de Pleasant Grove.
President Dieter F. Uchtdorf,
Dieter F. Uchtdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Chers frères, nous vous souhaitons la bienvenue à la session générale de la prêtrise de la 181e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas S. Monson, qui préside cette réunion, m'a demandé de la diriger. Cette réunion est transmise par satellite aux détenteurs de la prêtrise réunis dans le tabernacle, l'Assembly Hall, le Marriott Center de l'Université Brigham Young, le Centre de formation des missionnaires de Provo et dans des bâtiments de nombreux pays du monde. La musique de cette session sera interprétée par un chœur de la prêtrise de Melchizedek de Pleasant Grove, en Utah, sous la direction de Justin Bills, avec Clay Christensen à l'orgue. Le chœur va ouvrir cette session en chantant « Rise up, O man of God ». Ensuite, Richard G. Hinckley, qui a été relevé cet après-midi de son appel parmi les 70, fera la prière d'ouverture.
Notre Père éternel, en tant que détenteur de la prêtrise, nous nous réunissons dans ce centre de conférence magnifique et dans nombreux autres endroits à travers la terre, dans les chapelles et grâce à la technologie dans de nombreuses maisons, des huttes, des villages. Nous prions que ton esprit nous accompagne, que nous puissions écouter attentivement et que nous ayons le cœur réceptif. Nous sommes reconnaissants d'être avec des prophètes et des apôtres. Nous prions, Père, pour une bénédiction spéciale sur notre cher prophète, le président Thomas S. Monson, et sa compagne éternelle, adorable sœur Monson. Qu'il puisse ressentir ta force et qu'il soit béni et qu'il sache l'amour que nous éprouvons pour eux. Nous sommes reconnaissants pour la prêtrise et qu'elle ait été rétablie, que nous puissions l'utiliser pour bénir les autres et que nous puissions faire avancer ton travail sur la terre. Nous sommes reconnaissants, Père, pour l'Évangile rétabli qui nous montre le chemin dans cette vie pour nous améliorer dans un monde qui a perdu son chemin. Bénis-nous, Père, que nous puissions améliorer notre vie et à la suite de cette réunion. Et c'est notre prière, au nom de Jésus-Christ. Amen.
The choir will now favor us with...
Le chœur va maintenant nous interpréter « Oh, j'ai besoin de toi ». Puis nous aurons le plaisir d'entendre Jeffrey R. Holland du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Case McMullin, deuxième conseiller dans l'Épiscopat président. Après le discours de Frère McMullin, W. Christopher Waddell, des 70, nous adressera la parole.
Voice like thine can be solved. the spirit of that remarkably stirring and beautiful hymn,
dans l'esprit de ce chant magnifique, invocation in my heart,
I wish to speak rather candidly tonight,
parler de manière assez franche dans l'esprit de notre fraternité ce soir. Je parlerai avec cette même franchise aux jeunes gens de la prêtrise d'Aaron. Quand nous évoquons la splendeur de la première vision de Joseph Smith, nous nous passons parfois sous silence l'affrontement menaçant qui est survenu juste avant cela. Un affrontement dont le but était de détruire le jeune homme, si possible, à défaut de bloquer la révélation qui allait se produire. Nous ne parlons pas de l'adversaire plus que nous ne le devons. Et je n'aime pas du tout parler de lui. Mais l'expérience du jeune Joseph nous rappelle ce que chaque homme, y compris chaque jeune de cette assemblée, doit bien garder à l'esprit. Premièrement, Satan ou Lucifer ou le père du mensonge, appelez-le comme vous voulez, est réel. La personnification même du mal. Dans chaque cas, ses intentions sont malveillantes et il est pris de convulsions à l'apparition de la lumière rédemptrice, à l'idée même de la vérité. Deuxièmement, il est éternellement opposé à l'amour de Dieu, à l'expiation de Jésus-Christ et à l'œuvre de paix et de salut. Il les combat quand et où il le peut. Il sait qu'il sera vaincu et rejeté à la fin, mais il est résolu à emmener dans sa destruction autant de personnes qu'il le peut. Alors, quelles sont les tactiques du diable dans cette bataille où la vie éternelle est en jeu? Encore une fois, l'expérience du bosquet sacré est instructive. Joseph raconte que dans un effort pour s'opposer à tout ce qui était à venir, Lucifer a exercé sur lui une influence si étonnante que sa langue fut liée, de sorte qu'il ne pouvait pas parler. Comme le président Packer l'a dit ce matin, Satan ne peut pas ôter directement la vie à quelqu'un. C'est l'une des nombreuses choses qu'il ne peut pas faire. Mais apparemment, ses efforts pour faire arrêter l'œuvre seront raisonnablement bien servis s'il peut juste lier la langue des fidèles. Mes frères, si c'est le cas, ce soir, je recherche des hommes, jeunes et vieux, qui se préoccupent suffisamment de la bataille entre le bien et le mal pour s'enrôler et ouvrir la bouche. Nous sommes en guerre. Et pour ces quelques prochaines minutes, je veux recruter des gens pour la bataille. Ai-je besoin de fredonner quelques mesures, de « nous voici tous enrôlés » Vous connaissez le couplet qui dit « notre chef nous appelle aujourd'hui ». Bien sûr, ce qui est bien dans cet appel aux armes est que nous ne demandons pas des volontaires pour tirer au fusil ou lancer une grenade. Non, nous voulons des bataillons qui prendront pour armes toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors ce soir, je recherche des missionnaires qui ne liront pas leur langue volontairement, mais qui, avec l'Esprit du Seigneur et le pouvoir de leur prêtrise, ouvriront leur bouche et parleront de miracles. Les apôtres des premiers temps de l'Église ont dit un jour que cette manière de parler constituerait le moyen par lequel les œuvres les plus puissantes de la foi ont été et seront accomplies. Je demande aux jeunes gens de la prêtrise d'Aaron, en particulier, de se redresser et de prêter attention. Pour vous, je vais faire une comparaison avec le sport. Nous sommes dans une bataille à mort contre un adversaire qui vous déteste et déteste cette œuvre. Alors je vais rapprocher mon visage du vôtre, nez à nez, avec juste assez de feu dans la voix pour vous roussir les sourcils, comme un entraîneur quand le match est serré et que la victoire est importante. Et avec le match en jeu, ce que cet entraîneur vous dit, c'est que pour jouer ce match, certains d'entre vous doivent être plus purs moralement qu'ils ne le sont aujourd'hui. Dans cette bataille à mort entre le bien et le mal, vous ne pouvez pas jouer pour l'adversaire à chaque fois qu'une tentation survient, et ensuite espérer vous préparer au combat pour le Christ, au temple et en mission, comme si rien ne s'était passé. Ceci, mes jeunes amis, vous ne pouvez pas le faire. Dieu ne tolérera pas qu'on se moque de lui. Nous avons donc un dilemme, vous et moi, ce soir. C'est qu'il y a des milliers de jeunes gens en âge de détenir la prêtrise d'Aaron, qui sont déjà dans les registres de l'Église, qui constituent notre réservoir de candidats pour le futur service missionnaire. Mais le problème est de faire que ces diacres, instructeurs et prêtres, restent suffisamment pratiquants et dignes pour être ordonnés anciens et faire une mission. Donc nous avons besoin que les jeunes gens qui sont déjà dans l'équipe y restent et arrêtent de sortir hors du terrain, juste au moment où nous voulons qu'ils entrent dans le jeu et jouent de tout leur cœur. Dans presque toutes les compétitions sportives de ma connaissance, il y a des limites tracées sur le terrain dans lesquelles chaque participant doit rester pour participer. Eh bien, le Seigneur a tracé les limites de la dignité pour les personnes appelées à travailler avec lui dans son œuvre. Un missionnaire qui ne s'est pas repenti d'une transgression sexuelle ou de l'usage de langage grossier ou qui s'est laissé aller à la pornographie ne peut pas ensuite demander aux autres de se repentir de ces mêmes choses. Vous ne pouvez pas le faire. L'Esprit ne sera pas avec vous. Et les mots s'étrangleront dans votre gorge quand vous les prononcerez. Vous ne pouvez pas parcourir ce que Léhi appelle des sentiers interdits et espérer guider les autres vers le sentier étroit et resserré. C'est impossible. Mais il y a une réponse pour vous à ce problème, au même titre que pour cet ami de l'Église vers qui vous irez, qui que vous soyez. Et quoi que vous ayez fait, vous pouvez recevoir le pardon. Chacun d'entre vous, jeunes gens, peut laisser derrière lui la transgression, quelle qu'elle soit, avec laquelle il est aux prises. C'est le miracle du pardon, le miracle de l'expiation de Jésus-Christ. Mais vous ne pouvez pas le faire sans un engagement actif envers l'Évangile. Vous ne pouvez pas le faire non plus sans le repentir lorsqu'il est nécessaire. Je vous demande, jeunes gens, d'être pratiquants et d'être purs. Si nécessaire, je vous demande de devenir pratiquants et de devenir purs. Mes frères, nous vous parlons franchement, parce que parler avec plus de subtilité semble rarement fonctionner. Nous parlons franchement, parce que Satan est un être réel, déterminé à vous détruire, et vous êtes confronté à son influence de plus en plus tôt dans la vie. Alors, nous vous prenons par le revers de votre veste et nous crions de toutes nos forces, luttant, unis toujours à notre conducteur, serrons les rangs, serrons les rangs. Mes jeunes amis, nous aurons besoin de dizaines de milliers de missionnaires de plus dans les mois et les années à venir. Ils doivent venir d'un pourcentage accru de détenteurs de la prêtrise d'Aaron qui seront ordonnés, pratiquants, purs et dignes de servir. Nous remercions ceux d'entre vous qui ont fait une mission, qui sont maintenant en mission, du bien qu'ils ont fait et des personnes qu'ils ont touchées. Soyez bénis. Nous savons aussi que certains ont espéré toute leur vie faire une mission. Mais pour des raisons de santé ou d'autres obstacles indépendants de leur volonté, ne peuvent en faire une. Nous rendons publiquement et fièrement hommage à ce groupe. Nous connaissons vos aspirations et nous vous félicitons de votre dévouement. Vous avez notre amour et notre admiration. Vous êtes dans l'équipe et le serez toujours, même si vous êtes honorablement dispensé du service à plein temps. Mais nous avons besoin des autres. Maintenant, vous, mes frères de la prêtrise de Melchizedek, ne souriez pas et ne vous calez pas confortablement dans vos sièges. Je n'ai pas terminé. Nous avons besoin de milliers de plus de couples pour œuvrer dans les missions de l'Église. Chaque président de mission les réclame. Partout où ils travaillent, nos couples apportent une maturité à l'œuvre qu'aucune armée de jeunes de 19 ans ne peut apporter, aussi bon soit-il. Pour inciter plus de couples à servir, la première présidence et le Collège des 12 ont fait l'une des choses les plus audacieuses et les plus généreuses que l'on ait vues dans l'œuvre missionnaire ces 50 dernières années. En mai de cette année, les dirigeants de la prêtrise dans le champ ont reçu la nouvelle que les coûts de logement pour les couples, et nous parlons seulement des coûts de logement, seraient complétés par les fonds missionnaires de l'Église si les coûts dépassent un montant prédéterminé par mois. Quelle bénédiction! C'est une aide envoyée du ciel pour la plus grande dépense à laquelle nos couples ont à faire face dans leur mission. Les frères ont également décidé que les missions de couple peuvent être de 6 ou 12 mois, ou des 18 ou 24 mois traditionnels. Dans un autre geste merveilleux, les couples ont l'autorisation, à leurs frais, de rentrer brièvement chez eux pour les événements familiaux importants. Et cessez de vous soucier d'avoir à frapper aux portes ou d'avoir le même emploi du temps que les jeunes de 19 ans. Nous ne vous demandons pas de le faire, mais nous avons une foule d'autres choses que vous pouvez faire, avec beaucoup de latitude quant à la façon de les faire. Mes frères, nous nous rendons compte que certains d'entre vous ne peuvent pas partir maintenant, ou nous ne le pourrons peut-être jamais pour des raisons de santé, familiales ou économiques. Mais avec un peu de planification, beaucoup d'entre vous le peuvent. Évêques et présidents de pieux, discutez de ce besoin dans vos conseils et dans vos conférences. Lors de vos réunions, asseyez-vous sur l'estrade et regardez l'assemblée à l'aide de la prière pour recevoir l'inspiration quant aux couples qui doivent recevoir un appel. Puis discutez avec eux et aidez-les à fixer une date de service missionnaire. Frères, quand cela se produira, dites à votre femme que si vous pouvez laisser votre fauteuil inclinable et votre télécommande pour quelques mois, elle peut laisser les petits-enfants. Ces petits chéris iront très bien, et je vous promets que vous ferez des choses pour eux, au service du Seigneur. Vous ne pourriez en aucun cas faire si vous restiez à la maison pour les couver. Quel plus grand don les grands-parents peuvent-ils faire à leur postérité? Que de dire en action, aussi bien qu'en parole, dans notre famille, nous faisons des missions. L'œuvre missionnaire n'est pas la seule chose dont nous avons besoin dans cette grande et merveilleuse Église. Mais presque tout ce dont nous avons besoin de faire, d'autres, dépend des personnes qui entendent l'Évangile de Jésus-Christ pour la première fois et entrent dans l'Église. C'est sûrement pour cela que la mission finale que Jésus a confiée aux 12 était aussi fondamentale que cela. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ce n'est qu'après cela, et seulement après cela, que le reste des bénédictions de l'Évangile peut venir. La solidarité familiale, les programmes pour les jeunes, les promesses de la prêtrise et les ordonnances qui conduisent au temple. Mais comme Néphi a témoigné, rien de cela ne peut arriver si personne n'entre par la porte. Avec tout ce qu'il y a à faire, le long du chemin de la vie éternelle, nous avons besoin de plus de missionnaires pour ouvrir cette porte et aider les autres à la franchir. Je demande à chaque homme, jeune et vieux, qui détient la prêtrise, d'être une voix plus forte et plus dévouée à l'Évangile. Pas seulement contre le mal et celui qui en est la personnification, mais une voix qui parle pour le bien, pour l'Évangile, pour Dieu. Frères de tous âges, déliez votre langue et regardez vos paroles faire des merveilles dans la vie de gens qui ne sont empêchés d'accéder à la vérité que parce qu'ils ne savent pas où la trouver. Haste to the battle. Serrons les rangs autour du drapeau.
Quick to the field.
N'hésitons pas, car il est si beau.
Is our helmet.
Gaiement, avançons jour après jour, rentrons joyeux au foyer, foyer de l'amour.
By our colors.
Soyons fidèles à nos couleurs.
We're joyfully, joyfully.
Rentrons joyeux, joyeux au foyer, foyer de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, notre Maître. Amen.
Elder Holland, sign me up.
Frère Roland m'a présenté et a introduit le sujet de mon discours. Lors d'une récente session de formation pour les autorités générales, le président Monson a souligné de nouveau les devoirs et les occasions de service des détenteurs de la prêtrise d'Aaron. C'est dans l'esprit de cet enseignement que je m'adresse à vous. Le devoir, lorsqu'il est convenablement accompli, détermine la destinée des peuples et des nations. Ce principe du devoir est si fondamental qu'il est recommandé aux détenteurs de la prêtrise. C'est pourquoi que chaque homme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il est désigné, et ce, en toute diligence. Le président Monson explique, l'appel du devoir peut se produire discrètement dans l'exécution des tâches que nous recevons comme détenteurs de la prêtrise. Votre premier devoir à tous est d'apprendre la volonté du Seigneur, puis, par le pouvoir et la force de votre sainte prêtrise, de magnifier votre appel en présence de vos semblables, afin qu'ils vous suivent de bon cœur. Parlant de son devoir, notre Seigneur a dit, « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que Jésus-Christ a accompli son devoir, tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux ordonnances de l'Évangile. Frères, c'est le principe que nous devons suivre. J'ai pu voir personnellement que vous, qui êtes diacre, instructeur et prêtre, êtes aussi disposé, digne de confiance et capable d'accomplir votre devoir que nous vous demandons d'être. Nous vous admirons. Votre vitalité est contagieuse, vos capacités extraordinaires, votre compagnie vivifiante. Vous et l'office de la prêtrise d'Aaron que vous détenez êtes essentiels à l'œuvre de notre Père Céleste auprès de ses enfants et à la préparation de cette terre pour la seconde venue de son Saint-Fils. La vision que nous avons de vous et de votre devoir va au-delà de votre âge. Paul a dit de vous, « Que personne ne méprise votre jeunesse, mais soyez un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. » Aux hommes de jadis vint un jour la prêtrise nommée d'après Aaron, par les Lévites, prêtres et prophètes, pour bénir les enfants de Dieu. Puis vint le Sauveur du monde, qui chercha un homme nommé Jean pour être baptisé par ce même pouvoir et signaler l'aube du salut. Dans les derniers jours, ce même pouvoir fut de nouveau apporté sur terre, afin que toutes les vérités de l'Évangile puissent prendre place dans une âme. Prêtrise d'Aaron, vérité sublime, viens tout préparer, que nous puissions être rachetés par le Fils bien-aimé de Dieu. Et celui qui administre ses pouvoirs, ce n'est pas un garçon qui le peut. Quand il porte le manteau de la prêtrise, nous disons, voici l'homme. Le pouvoir et l'autorité de la prêtrise d'Aaron est de détenir les clés du ministère d'ange et d'administrer les ordonnances extérieures, la lettre de l'Évangile, le baptême de repentir pour la rémission des péchés, conformément aux alliances et aux commandements. Boyd K. Packer a déclaré, « Nous avons bien réussi à distribuer l'autorité de la prêtrise. Elle est implantée presque partout. Mais je pense que la distribution de l'autorité de la prêtrise s'est faite plus vite que celle du pouvoir de la prêtrise. Pour le bien-être éternel des enfants de Dieu, nous devons remédier à cette situation. Notre prophète nous a dit comment nous y prendre. Le président Monson a dit, « Je veux voir le pouvoir de la prêtrise renforcé. Je veux voir cette force et ce pouvoir se répandre dans tout le corps de la prêtrise, allant de la tête jusqu'au plus jeune et plus humble diacre de l'Église. Chaque homme devrait rechercher et bénéficier des révélations de Dieu, la lumière des cieux brillant dans son âme et lui donnant la connaissance concernant ses devoirs, concernant cette portion de l'œuvre qui lui incombe dans sa prêtrise. Qu'est-ce qu'un diacre, un instructeur ou un prêtre peut faire pour recevoir l'esprit de révélation et magnifier son appel? Il peut vivre de manière à bénéficier du pouvoir purificateur, sanctificateur et illuminateur du Saint-Esprit. Il s'agit d'une chose dont on mentionne l'importance dans ses paroles d'Alma. Maintenant, je vous dis que c'est là l'ordre selon lequel je suis appelé, pour prêcher à la génération montante qu'elle doit se repentir et naître de nouveau. Quand on est de nouveau, on a le cœur changé. On n'a plus d'appétit pour les choses mauvaises ou impures. On ressent un amour profond et durable pour Dieu. On veut être bon, rendre service à autrui et respecter les commandements. Joseph F. Smith a décrit l'expérience qu'il a vécue de ce changement. Le sentiment qui m'envahit fut un sentiment de pure paix, d'amour et de lumière. Je sentis dans mon âme que si j'avais péché, ces péchés m'avaient été pardonnés, que j'étais véritablement purifié du péché. Mon cœur était touché et je sentais que je ne ferais plus de mal à une mouche. J'avais le sentiment de vouloir faire le bien partout, à tout le monde et à toute chose. J'éprouvais une nouveauté de vie, un désir nouveau de faire le bien. Il ne restait pas dans mon âme la moindre particule de désir de faire le mal. Je n'étais qu'un petit garçon, il est vrai, mais telle fut l'influence qui reposa sur moi, et je sais qu'elle venait de Dieu, et qu'elle fut et a toujours été le témoignage vivant pour moi que j'avais accepté le Seigneur. C'est pourquoi nous vous invitons, merveilleux jeunes frères, à vous efforcer diligemment de naître de nouveau. Priez pour que ce changement profond se produise dans votre vie. Étudiez les Écritures. Désirez plus que tout connaître Dieu et devenir comme son Saint-Fils. Profitez de votre jeunesse, mais faites disparaître ce qui est de l'enfant. Évitez les discours insensés et profanes. Fuyez tout mal. Évitez les disputes. Repentez-vous lorsque c'est nécessaire. Cela vous aidera à vous hisser au niveau de la stature noble de votre condition d'homme. Vous posséderez les qualités du courage, de la loyauté, de l'humilité, de la foi et de la bonté. Vos amis vous admireront. Vos parents vous féliciteront. Les frères de la prêtrise compteront sur vous. Et les jeunes filles vous adoreront et deviendront encore meilleures grâce à vous. Dieu vous honorera et dotera votre service dans la prêtrise de pouvoir d'en haut. Nous autres, nous ferons notre part. Nous, les parents et les grands-parents, nous vous préparerons à œuvrer plus vaillamment dans le royaume de Dieu. Nous, vos frères, nous serons des exemples à suivre. Nous augmenterons la force de vos collèges. Nous soutiendrons vos présidences de collèges dans l'exercice de leurs clés de présidence. Nous vous donnerons l'occasion de remplir pleinement les devoirs de la prêtrise d'Aaron et de magnifier votre appel dans cette prêtrise. Grâce à votre ministère, l'Église recevra de grandes bénédictions. Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. Vous le pouvez aussi. Parlez par le pouvoir du Saint-Esprit et administrez les emblèmes sacrés de la Sainte Cène. Et hommes et femmes, filles et garçons, s'efforceront de se repentir, d'accroître leur foi au Christ et d'avoir le Saint-Esprit toujours avec eux. Jeûnez et collectez les offrandes de jeûne, et les membres seront amenés à modeler leurs œuvres sur le Sauveur. Le Seigneur se souciait des pauvres. des opprimés. Et il a dit, « Viens et suis-moi. » Le service que vous accomplissez en vous occupant des défavorisés nous engage en son œuvre sainte et nous aide à conserver le pardon de nos péchés passés. Lorsque vous rendez visite à chaque membre, n'ayez pas de crainte ou d'hésitation. Le Saint-Esprit vous inspirera au moment même les paroles à dire, le témoignage et le service à rendre. Vos efforts diligents pour toujours veiller sur les membres porteront leurs fruits. Vos manières humbles désarmeront le cœur le plus incrédule et feront lâcher prise à l'adversaire. Votre invitation aux autres à venir à l'Église avec vous, à prendre la Sainte Cène avec vous et à servir avec vous deviendra un baume réconfortant pour les personnes perdues dans les ténèbres où la lumière de l'Évangile n'est qu'une braise à peine rougeoyante ou complètement éteinte. Ô mes jeunes frères bien-aimés, ne négligez pas le don qui est en vous, que vous avez reçu lorsque la prêtrise d'Aaron vous a été conférée et que vous avez été ordonnée. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, mais souffrez avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu, qui nous a adressé une sainte vocation, qui nous a été donné en Jésus-Christ avant le début des temps. Notre prophète bien-aimé vous a appelé sous la bannière. Nous vous rendons hommage, nous prions pour vous, nous nous réjouissons d'œuvrer avec vous et nous remercions Dieu du pouvoir de votre ministère salvateur. Je rends témoignage que Dieu est notre Père éternel et qu'il vit dans les cieux là-haut. Jésus, le Christ, est le Saint-Fils de Dieu, le Rédempteur du monde. Et vous, les détenteurs de la prise d'Aaron, êtes ses émissaires, ici-bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
A milestone in the life of a missionary.
L'entretien de fin de mission ou de départ avec son président de mission est une étape importante pour un missionnaire. Au cœur de cet entretien, il y aura une discussion de ce qui paraît constituer une vie entière d'expériences mémorables et de leçons clés dont le missionnaire a acquises pendant à peine 18 ou 24 mois. Beaucoup de ces expériences et de ces leçons peuvent relever du service missionnaire ordinaire. Mais chaque mission est unique avec des épreuves et des occasions qui nous amènent à nous dépasser, à nous mettre à l'épreuve selon nos besoins et notre personnalité propre. Longtemps avant de quitter notre foyer terrestre et notre famille pour aller en mission à plein temps, nous avons quitté nos parents célestes pour accomplir notre mission dans la condition mortelle. Nous avons un Père Céleste qui nous connaît avec nos points forts et nos faiblesses, nos capacités, notre potentiel. Il sait quel président de mission, quel collègue et quel membre et ami de l'Église il nous faut pour devenir le missionnaire, le mari, le père et le détenteur de la prêtrise que nous sommes capables de devenir. Les prophètes, voyants et révélateurs, désignent aux missionnaires leur affectation sous la direction et l'influence du Saint-Esprit. Sous l'inspiration, les présidents de mission procèdent aux mutations toutes les 6 semaines et ne tardent pas à se rendre compte que le Seigneur sait précisément où il veut que chaque missionnaire œuvre et pourquoi. Il y a quelques années, Javier Misiego de Madrid était en mission en Arizona. À cette époque, son appel en mission aux États-Unis semblait quelque peu inhabituel, car la plupart des jeunes Espagnols étaient appelés à œuvrer dans leur pays. À la fin d'une veillée de pieux, où son collègue et lui avaient été invités, un membre non pratiquant de l'Église a abordé Frère Misiego. Un ami l'avait amené, c'était la première fois depuis des années que cet homme se trouvait dans une église. Il a demandé à Frère Misiego s'il connaissait un certain José Misiego de Madrid. Quand Frère Misiego a répondu que c'était le nom de son père, l'homme lui a posé avec enthousiasme quelques autres questions pour s'assurer que c'était bien le bon José Misiego. Une fois assuré qu'il parlait du même homme, ce membre non pratiquant s'est mis à pleurer, disant avoir cru que sa mission avait été un échec. Il a expliqué « Votre père a été la seule personne que j'ai baptisée de toute ma mission. » Il attribuait ses années loin de l'Église à ses sentiments d'incapacité et d'inquiétude, pensant qu'il avait d'une certaine façon laissé tomber le Seigneur. Fier Misiego a ensuite relaté ce que ce prétendu échec avait signifié pour sa famille. Il lui a dit que son père, qui avait été baptisé quand il était jeune adulte, s'était marié au temple, qu'il était lui le quatrième de six enfants, que les trois garçons avaient tous été missionnaires, ainsi qu'une sœur, qu'ils étaient tous pratiquants et que tous ceux qui étaient mariés avaient été scellés dans le temple. L'ancien missionnaire non pratiquant s'est mis à sangloter. Ses efforts avaient béni de nombreuses vies. Le Seigneur avait envoyé un missionnaire de Madrid au loin à une veillée en Arizona pour faire savoir à l'ancien missionnaire non pratiquant que sa mission n'avait pas été un échec. Le Seigneur sait où il veut que chaque missionnaire œuvre. De quelque manière que le Seigneur décide de nous bénir en mission, il n'est pas prévu que les missionnaires de la mission s'arrête lors de notre relève par notre président de pieux. Votre mission sert d'entraînement à la vie, des expériences, des leçons, le témoignage et la connaissance obtenue grâce à la fidélité dans cet appel vise à constituer un fondement centré sur l'Évangile qui durera tout au long de l'expérience mortelle et jusque dans les éternités. Mais pour que ces bénédictions durent après la mission, il y a des conditions à remplir. Car tous ceux qui veulent avoir une bénédiction de moi respecteront la loi qui a été désigné pour cette bénédiction et ses conditions. Un épisode de l'Exode enseigne ce principe. Après avoir reçu sa mission du Seigneur, Moïse est retourné en Égypte pour faire sortir les enfants d'Israël de captivité. Toutes les plaies qui se sont succédées jusqu'à la dixième et dernière n'ont pas assuré leur liberté. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Pour protéger son peuple, le destructeur, le Seigneur lui a demandé d'offrir en sacrifice un agneau sans défaut et de garder le sang du sacrifice. Le peuple devait ensuite prendre de son sang et l'appliquer à l'entrée de chaque maison, sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte. Avec la promesse suivante, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise. » Les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que le Seigneur avait ordonné. Ils offrirent le sacrifice, gardèrent le sang et l'appliquèrent sur la maison. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Selon la promesse du Seigneur, Moïse et son peuple furent protégés. Le sang utilisé par les Israélites, symbole de l'expiation et cadeau futur du Sauveur, était un produit du sacrifice qu'ils avaient offert. Néanmoins, le sacrifice et le sang, à eux seuls, n'auraient pas suffi à obtenir la bénédiction promise. Si le sang n'avait pas été appliqué sur les poteaux de la porte, le sacrifice aurait été vain. Le président Monson a enseigné, « L'œuvre missionnaire est difficile. Cela consomme votre énergie, cela épuise vos capacités. Cela vous demande tous vos efforts. Aucune autre œuvre ne requiert plus de temps, plus de dévouement ou un tel sacrifice et des prières ferventes. En retour de ce sacrifice, nous revenons de mission avec nos propres dons, le don de la foi, le don du témoignage, le don de la compréhension du rôle de l'Esprit, le don de l'étude quotidienne de l'Évangile et de son effet sur nous, le don d'avoir servi notre Sauveur, don soigneusement préservé dans des écritures usagées, dans des exemplaires en lambeaux de prêcher mon Évangile, dans des journaux de mission et dans des cœurs reconnaissants. Mais pour les enfants, comme pour les enfants d'Israël, les bénédictions continues associées au service missionnaire nécessitent qu'on passe à l'application après le sacrifice. Il y a quelques années, tandis que Sœur Vadel et moi présidions la mission de Barcelone, je confiais une dernière tâche à chaque missionnaire lors de son entretien de fin de mission. Je leur demandais de prendre immédiatement le temps à leur retour chez eux de méditer sur les leçons et les dons que leur avait accordés un Père Céleste généreux. En s'aidant de la prière, ils devaient faire la liste de ces leçons et réfléchir à la meilleure manière de les appliquer après leur mission, des leçons qui allaient influencer chaque aspect de leur vie, études et choix professionnels, mariage et enfants, services à venir dans l'Église et surtout la personne qu'ils continueraient à devenir et leur développement continu de disciples de Jésus-Christ. Il n'est jamais trop tard pour qu'un ancien missionnaire médite sur les leçons reçues grâce à son service fidèle et pour qu'il les applique plus diligemment. Ce faisant, nous sentirons davantage l'influence du Saint-Esprit pour nous, notre famille sera fortifiée et nous rapprocherons de notre Sauveur et de notre Père Céleste. Dans une conférence générale précédente, Elton Perry a lancé cette invitation. « Ancien missionnaire, je vous appelle à vous réengager. » à être de nouveau rempli du désir et de l'esprit du service missionnaire. Je fais appel à vous pour paraître des serviteurs de notre Père Céleste, pour l'être et pour agir en tant que tel. Je vous promets que de grandes bénédictions vous attendent si vous continuez d'aller de l'avant avec le zèle que vous possédiez en tant que missionnaire à plein temps. En m'adressant maintenant aux jeunes gens qui doivent encore partir en mission à plein temps, je reprends le conseil que le président Monson a donné en octobre dernier. Je répète ce que les prophètes enseignent depuis longtemps, à savoir que chaque homme, jeune homme digne et qui en est capable, doit se préparer à faire une mission. Le service missionnaire est un devoir de prêtrise, une obligation dont le Seigneur attend que nous nous acquittions, nous à qui tant a été donné. Comme pour les missionnaires passés actuels, le Seigneur vous connaît, une expérience missionnaire préparée pour vous. Il connaît votre présente mission et sa femme, qui vous aimeront comme leurs enfants et qui chercheront à être inspirés et dirigés en votre faveur. Il connaît chacun de vos collègues et ceux que vous apprendrez grâce à eux. Il connaît chaque endroit où vous œuvrerez, les membres que vous rencontrerez, les vies que vous influencerez éternellement. Par votre service dévoué et votre sacrifice volontiers consenti, votre mission deviendra pour vous un moment sacré. Vous serez témoin du miracle de la conversion lorsque l'Esprit opérera par votre intermédiaire afin de toucher le cœur des personnes à qui vous enseignerez l'Évangile. Il y a beaucoup de choses à faire pour vous préparer au service missionnaire. Pour devenir un serviteur efficace, vous devez non seulement être mis à part, mettre un insigne portant votre nom ou aller au centre de formation des missionnaires. Le processus commence longtemps avant que vous portiez votre insigne. Arrivez en mission en ayant un témoignage personnel du Livre de Mormon, que vous aurez obtenu grâce à l'étude et à la prière. Le Livre de Mormon est une grande preuve de la divinité du Christ. Il est aussi la preuve du rétablissement par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète. Vous, missionnaires, devez tout d'abord avoir personnellement le témoignage que le Livre de Mormon est vrai. Ce témoignage du Saint-Esprit doit être le sujet central de votre enseignement. Deuxièmement, arrivez en mission en étant digne de la compagnie du Saint-Esprit. Ezra Taft Benson a dit, « L'Esprit est de loin l'élément le plus important dans cette œuvre. Si vous avez l'Esprit pour magnifier votre appel, vous pouvez faire des miracles pour le Seigneur dans le champ de la mission. Sans l'Esprit, vous ne réussirez jamais, quels que soient vos talents et vos capacités. » Troisièmement, arrivez en mission en étant prêt à travailler. Votre réussite missionnaire dépend avant tout de votre volonté de trouver, d'instruire, de baptiser et de confirmer des gens. Vous devrez travailler efficacement tous les jours et faire de votre mieux pour amener des âmes au Christ. Je répète l'invitation d'M. Russell Ballard adressée à un groupe de jeunes gens qui se préparent au service. Nous comptons sur vous, mes jeunes frères de la prêtrise d'Aaron. Nous avons besoin de vous. Comme les 2000 jeunes guerriers des Lamans, vous êtes vous aussi enfants d'Esprit de Dieu et vous pouvez vous aussi être dotés de pouvoir pour édifier et défendre son royaume. Nous avons besoin que vous contractiez des alliances sacrées, tout comme eux. Nous avons besoin que vous soyez d'une obéissance et d'une foi rigoureuse, tout comme eux. Si vous acceptez cette invitation, vous apprendrez une grande leçon. Comme frère Missiego et toutes les personnes qui ont œuvré fidèlement sont revenues de mission et ont appliqué cette leçon. Vous apprendrez que les paroles de notre prophète Thomas S. Monson sont vraies. Les occasions missionnaires de toute une vie sont à vous. Les bénédictions de l'éternité vous attendent. Vous avez l'honneur d'être non pas spectateur, mais participant sur la scène du service de la prêtrise. Je témoigne que c'est vrai. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Merci, frère. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter Hosanna au grand roi. Après quoi, j'aurai le plaisir de vous adresser un discours. Après mon discours, nous entendrons Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence.
My dear brethren, I truly rejoice with you in
this. Mes chers frères, je me réjouis de pouvoir partager cette expérience spirituelle avec vous ce soir. Il y a 65 ans, peu de temps après la Seconde Guerre mondiale, j'ai pu recevoir moi-même les bénédictions du programme d'entraide de l'Église. Je n'étais qu'un jeune enfant, mais je me souviens encore de la douceur des pêches en boîte avec du blé cuit et de l'odeur particulière des vêtements que des membres attentionnés de l'Église aux États-Unis avait donné aux saints allemands d'après-guerre. Je chérirai toujours ces actes d'amour et de gentillesse envers ceux d'entre nous qui étaient dans un grand besoin. Cette expérience personnelle et le 75e anniversaire du programme inspiré de l'entraide m'amènent à réfléchir de nouveau au principe de base du secours apporté aux pauvres et aux nécessiteux, de l'autonomie et des services rendus à notre prochain. Parfois, nous ne voyons l'entraide que comme un principe de l'Évangile parmi d'autres, comme l'une des nombreuses branches de l'arbre de l'Évangile. Mais je crois que dans le plan du Seigneur, notre engagement vis-à-vis des principes de l'entraide doit être à la racine de notre foi et de notre dévouement envers lui. Depuis le début des temps, notre Père Céleste a parlé avec une grande clarté à ce sujet. Depuis la douce supplication, « Si tu m'aimes, tu te souviendras des pauvres et tu consacreras une partie de tes biens à leur entretien. » Au commandement direct, « Souvenez-vous en toutes choses des pauvres et des nécessiteux, des malades et des affligés, car celui qui ne fait pas ces choses n'est pas mon disciple. » En passant par le sévère avertissement suivant, si quelqu'un prend de l'abondance que j'ai faite et ne donne pas sa part, selon la loi de mon évangile, aux pauvres et aux nécessiteux, il lèvera avec les méchants les yeux en enfer, en proie au tourment. Les deux grands commandements, aimer Dieu et notre prochain, sont une union du temporel et du spirituel. Il est important de remarquer que ces deux commandements sont appelés grands parce que tous les autres commandements dépendent d'eux. En d'autres termes, nos priorités personnelles et familiales, ainsi que celles de l'Église, doivent commencer ici. Tous les autres objectifs et toutes les autres actions doivent découler de ces grands commandements, de notre amour pour Dieu et pour notre prochain. Comme les deux faces d'une pièce de monnaie, le temporel et le spirituel sont inséparables. Le Créateur de toute vie a proclamé « Pour moi, toutes les choses sont spirituelles, et je ne vous ai jamais donné en aucun temps de loi qui fût temporelle. » Ce qui veut dire pour moi qu'une vie spirituelle est tout d'abord une vie. Ce n'est pas seulement quelque chose à connaître ou à étudier. C'est quelque chose à vivre. Malheureusement, certains oublient le temporel parce qu'ils le considèrent comme moins important. Ils chérissent le spirituel tout en minimisant le temporel. Bien qu'il soit important de tourner nos pensées vers les cieux, nous ratons l'essence de notre religion si nous ne tournons pas nos mains vers notre prochain. Par exemple, Enoch a bâti la société de Sion grâce au processus spirituel consistant à susciter un peuple qui soit d'un seul cœur et d'un seul esprit. Et grâce à l'œuvre temporelle qui consistait à veiller à ce qu'il n'y ait pas de pauvres parmi eux. Comme toujours, nous pouvons prendre Jésus-Christ comme modèle, car il est l'exemple parfait. Comme J. Ruben Clark l'a enseigné, quand le Seigneur est venu sur la terre, il avait deux grandes missions. L'une était de remplir son rôle de Messie, l'expiation et l'accomplissement de la loi. L'autre était l'œuvre qu'il a accomplie parmi ses frères et ses sœurs dans la chair, en soulageant leurs souffrances. De la même façon, notre progression spirituelle est inséparablement liée au service temporel que nous rendons aux autres. L'un complète l'autre. L'un sans l'autre n'est qu'une contrefaçon du plan de bonheur de Dieu. Dans le monde, de nombreuses personnes et organisations essayent de répondre aux grands besoins des pauvres et des nécessiteux de partout. Nous sommes reconnaissants de ces efforts. Mais la manière du Seigneur de prendre soin des nécessiteux est différente de celle du monde. Le Seigneur a déclaré « Il faut que cela se fasse à ma façon ». Il ne s'intéresse pas qu'à nos besoins immédiats. Il se soucie aussi de notre progression éternelle. C'est pour cette raison que prendre soin des pauvres à la manière du Seigneur a toujours impliqué l'autonomie et le service à notre prochain, en plus de la sollicitude pour les pauvres. En 1941, la rivière Gila a débordé et inondé la vallée de Duncan en Arizona. Un jeune président de pieux du nom de Spencer W. Kimball a réuni ses conseillers, a évalué les dégâts et a envoyé un télégramme à Salt Lake City pour demander une grosse somme d'argent. Au lieu d'envoyer de l'argent, Heber G. Grant, alors président de l'Église, a envoyé trois hommes, Henry D. Moyle, Marion G. Romney et Harold Billy. Ils se sont entretenus avec le président Kimball et lui ont enseigné une importante leçon. Ce n'est pas un programme d'assistanat, ont-ils dit. C'est un programme qui permet aux gens de se prendre en charge. Des années plus tard, le président Kimball a déclaré « Il aurait été facile, je pense, pour les autorités générales de nous envoyer l'argent, et ce n'aurait pas été très difficile pour moi de le distribuer, assis à mon bureau. » Mais tant de bien a découlé du fait que nous soyons allés, par centaines de membres que nous étions, à Duncan pour construire des clôtures, transporter la paille, niveler le sol et faire tout ce qu'il fallait faire. C'est cela, se prendre en charge. Parce qu'ils ont suivi la manière du Seigneur, les membres du pieu de frère Kimball ont non seulement vu leurs besoins immédiats satisfaits, mais ils ont aussi augmenté leur autonomie, allégé des souffrances et grandi en amour et en unité en se servant les uns les autres. En ce moment même, de nombreux membres de l'Église souffrent. Ils ont faim, connaissent des difficultés financières, luttent contre toutes sortes de détresse physique, émotionnelle et spirituelle. Ils prient avec toute l'énergie de leur âme pour être secourus, soulagés. Frères, s'il vous plaît, ne pensez pas que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. C'est la mienne, c'est la vôtre. Nous sommes tous enrôlés. Tous signifie tous. Chaque détenteur de la prêtrise d'Aaron et de la prêtrise de Melchisédek, riche ou pauvre, de tout pays. Dans le plan du Seigneur, chacun peut apporter sa contribution. La leçon que nous tirons génération après génération est que riches et pauvres sont tous sous la même obligation sacrée d'aider leurs prochains. Cela demande que nous travaillions tous ensemble pour appliquer avec succès les principes d'entraide et d'autonomie. Trop souvent, nous remarquons les besoins autour de nous en espérant que quelqu'un d'éloigné apparaîtra par magie pour y répondre. Peut-être attendons-nous des experts dans certains domaines pour résoudre des problèmes particuliers. Quand nous faisons cela, nous privons notre prochain des services que nous pourrions lui rendre et nous nous privons de l'occasion de servir. Bien qu'il n'y ait rien de mal à avoir des experts, reconnaissons qu'ils ne seront jamais assez nombreux pour résoudre tous les problèmes. Au lieu de cela, le Seigneur a placé sa prêtrise et son organisation dans le monde entier au pas de notre porte. Et juste à ses côtés, il a placé la société de secours. Comme nous le savons, nous les détenteurs de la prêtrise, aucun effort d'entraide n'est une réussite s'il ne fait pas usage des dons et des talents remarquables de nos sœurs. La manière du Seigneur n'est pas de s'asseoir au bord d'un ruisseau et d'attendre l'eau que l'eau passe pour pouvoir traverser. Mais c'est de nous réunir, de retrousser nos manches, de nous mettre au travail et de construire un pont ou un bateau pour traverser les eaux de nos difficultés. Jeunes gens de Sion, vous, détenteurs de la prêtrise, vous êtes ceux qui peuvent donner l'exemple et porter secours aux saints en appliquant les principes inspirés du programme d'entraide. Votre mission consiste à ouvrir les yeux, à utiliser votre prêtrise et à aller travailler à la manière du Seigneur. Pendant la Grande Dépression, les autorités générales ont demandé à Harold Billy de trouver des réponses à la pauvreté oppressante, à la tristesse et à la faim qui étaient si répandues dans le monde à l'époque. Il a beaucoup réfléchi pour trouver une solution et a présenté le problème au Seigneur en demandant « Quel type d'organisation aurons-nous pour faire cela ?» Et c'était comme si le Seigneur lui avait dit « Regarde, mon fils, vous n'avez pas besoin d'une autre organisation. Je vous ai donné la plus grande organisation qui soit sur terre. Rien ne dépasse en importance l'organisation de la prêtrise. Tout ce que vous devez faire, c'est mettre la prêtrise au travail. C'est tout. » C'est aussi le point de départ à notre époque. Nous avons déjà l'organisation du Seigneur en place. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de déterminer comment l'utiliser. Il faut commencer par nous renseigner sur ce que le Seigneur a déjà révélé. Nous ne devons pas supposer que nous savons. Nous devons aborder le sujet avec l'humilité d'un enfant. Chaque génération doit réapprendre les points de doctrine qui sous-tendent la manière du Seigneur de prendre soin des nécessiteux. Comme de nombreux prophètes nous l'ont enseigné pendant des années, les principes de l'entraide de l'Église ne sont pas simplement de bonnes idées. Ce sont des vérités révélées de Dieu. C'est sa façon d'aider les nécessiteux. Frères, étudiez les points de doctrine et les principes révélés en premier. Lisez les manuels d'instruction concernant l'entraide dans l'Église. Tirez parti du site internet providentliving.org. Relisez l'article d'Uliaona de juin 2011 sur le plan d'entraide de l'Église. Découvrez la manière du Seigneur de prendre soin de ses saints. Apprenez de quelle façon l'aide aux nécessiteux, le service au prochain et l'autonomie se complètent. L'autonomie à la façon du Seigneur implique un équilibre entre de nombreux aspects de la vie, que ce soit l'instruction, la santé, l'emploi, les finances familiales et la spiritualité. Renseignez-vous et familiarisez-vous sur le programme d'entraide moderne de l'Église. Une fois que vous avez étudié la doctrine et les principes de l'entraide de l'Église, cherchez à appliquer ce que vous avez appris aux besoins des personnes qui dépendent de votre intendance. Cela signifie que dans une large mesure, vous allez devoir trouver par vous-même ce qu'il faut faire. Chaque famille, chaque assemblée, chaque région du monde est différente. Dans l'entraide de l'Église, il n'existe pas une réponse qui convienne pour tout. Vous allez devoir élaborer un plan qui sera conforme à la doctrine du Seigneur et qui correspondra aux particularités de votre région. Pour appliquer les principes divins de l'entraide, vous n'avez pas à regarder sans cesse vers Salt Lake City. Vous devez plutôt rechercher dans les manuels d'instruction, dans votre cœur et dans les cieux. Faites confiance à l'inspiration du Seigneur et suivez sa façon de faire. En fin de compte, vous devez faire dans votre région ce que les disciples du Christ ont fait à chaque dispensation. Tenir conseil, utiliser les ressources disponibles, rechercher l'inspiration du Saint-Esprit, demander confirmation au Seigneur, puis remonter ses manches et se mettre au travail. Je vous fais la promesse que si vous faites ainsi, vous serez guidé précisément pour savoir qui aider à la manière du Seigneur, comment, quand et où. Il y a peu de promesses et de bénédictions plus belles que celles promises par le Seigneur à ses enfants, par l'intermédiaire de ses prophètes, à propos de l'entraide de l'Église et du fait de pourvoir aux besoins à sa manière. Si tu donnes ta propre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Que nous soyons riches ou pauvres, quel que soit l'endroit où nous vivons, nous avons tous besoin les uns des autres. Car c'est en sacrifiant notre temps, nos talents et nos ressources que notre esprit mûrit et se raffine. Cette œuvre consistant à subvenir aux besoins à la manière du Seigneur n'est pas qu'un élément de plus du catalogue des programmes de l'Église. On ne peut pas la négliger ou la mettre de côté. Elle est au centre de notre doctrine. Elle est l'essence de notre religion. Frères, c'est notre grand honneur de détenteur de la prêtrise que de mettre cette prêtrise au travail. Notre cœur et notre esprit ne doivent pas renoncer à acquérir plus d'autonomie, à mieux prendre soin des nécessiteux et à rendre des services compatissants. Le temporel est inextricablement lié au spirituel. Dieu nous a fait don de cette expérience.
Dieu nous a fait don de cette expérience dans la condition mortelle et les difficultés qui l'accompagnent. Je prie pour que nous comprenions le grand devoir.
Pour que nous comprenions le grand devoir et la grande bénédiction qui découle du fait de suivre le chemin du Seigneur et de pourvoir aux besoins à sa manière. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Mes chers frères, c'est une joie pour moi de participer avec vous à cette réunion mondiale de la prêtrise de Dieu. Ce soir, je vais parler de la préparation dans la prêtrise, de notre préparation et de celle que nous aidons à assurer aux autres. La plupart d'entre nous se demandent parfois, suis-je préparé pour cette tâche dans la prêtrise ? Je vous réponds, oui, vous avez été préparé. Mon propos aujourd'hui est de vous aider à prendre conscience de cette préparation et en tirer du courage. Comme vous le savez, la prêtrise d'Aaron est conçue comme une prêtrise préparatoire. La grande majorité de ceux qui la détiennent sont de jeunes diacres, instructeurs et prêtres âgés de 12 à 19 ans. Nous pouvons penser que la préparation dans la prêtrise se produit au cours des années passées dans la prêtrise d'Aaron. Mais notre Père Céleste nous prépare depuis l'époque où nous recevions son enseignement auprès de lui, dans son royaume, avant notre naissance. Il nous prépare ce soir et il continuera de nous préparer tant que nous le laisserons le faire. Le but de toute la préparation dans la prêtrise, dans la préexistence et dans cette vie, et de nous équiper pour la vie éternelle, nous et les personnes que nous servons pour lui. Parmi les premières leçons de la préexistence, il y avait certainement le plan du salut, avec au centre Jésus-Christ et son expiation. Non seulement on nous a enseigné le plan, mais nous étions dans des conseils où nous l'avons choisi. Du fait qu'un voile d'oubli a été placé sur notre esprit à la naissance, nous avons dû trouver le moyen de réapprendre dans cette vie ce que nous savions et avons défendu autrefois. Une partie de notre préparation dans cette vie a consisté à trouver cette vérité précieuse afin de pouvoir nous réengager vis-à-vis d'elle par alliance. Cela requit de la foi, de l'humilité et du courage de notre part, ainsi que l'aide de gens qui avaient trouvé la vérité et qui nous l'ont ensuite fait connaître. Il a pu s'agir de parents, de missionnaires ou d'amis. Mais cette aide a fait partie de notre préparation. Notre préparation dans la prêtrise comporte toujours d'autres personnes qui ont été précédemment préparées pour nous, donner la possibilité d'accepter l'Évangile, puis de choisir de respecter des alliances afin de les assimiler jusqu'au fond de notre cœur. Pour que nous nous qualifions pour la vie éternelle, il faut que notre service ici-bas inclut que nous nous efforcions de tout notre cœur, de tout notre esprit et de toutes nos forces de préparer d'autres personnes à retourner auprès de Dieu avec nous. Ainsi, la préparation dans la prêtrise que nous aurons dans cette vie consistera, entre autres, en occasion de servir et d'instruire les autres. Elle pourra consister à être instructeur dans l'Église, des pères sages et aimants, des membres d'un collège et des missionnaires pour le Seigneur, Jésus-Christ. Le Seigneur nous donnera les occasions, mais cela dépendra de nous d'être préparés ou non. Mon propos ce soir est d'indiquer certains des choix déterminants nécessaires à la réussite de la préparation dans la prêtrise. Pour que la personne qui forme et celle qui est formée fassent de bons choix, il faut une certaine compréhension de la manière dont le Seigneur prépare ses serviteurs qui détiennent la prêtrise. Premièrement, il appelle des gens, jeunes et vieux, qui peuvent paraître à des yeux profanes, et même à leurs propres yeux, faibles et simples. Le Seigneur peut faire de ces faiblesses apparentes des points forts. Le fait d'en être conscient change la façon dont le dirigeant sage choisit de former. Et cela peut aussi changer la façon dont le détenteur de la prêtrise réagit aux occasions de progresser qui lui sont offertes. Examinons quelques exemples. J'étais un prêtre sans expérience, dans une grande paroisse. Un dimanche après-midi, mon évêque m'a téléphoné. Il m'a demandé, « Tu as le temps de venir avec moi ? J'ai besoin de ton aide. » Tout ce qu'il m'a expliqué, c'est qu'il voulait que je l'accompagne pour rendre visite à une femme que je ne connaissais pas, qui n'avait pas de nourriture et qui avait besoin d'apprendre à mieux gérer ses finances. Je sais qu'il avait deux conseillers expérimentés dans son épiscopat. C'étaient deux hommes mûrs et d'une grande expérience. L'un d'eux était propriétaire d'une grande entreprise et est devenu plus tard président de mission et autorité générale. L'autre était un juge éminent. Je venais d'être appelé comme premier assistant de l'évêque dans le collège des prêtres. Il savait que je comprenais peu de choses au principe d'entraide. J'en savais encore moins sur les finances personnelles. Je n'avais encore jamais fait de chèque. Je n'avais pas de compte en banque. Je n'avais même encore jamais vu un budget personnel. Et pourtant, malgré mon inexpérience, j'ai senti qu'il était on ne peut plus sérieux quand il a dit « J'ai besoin de ton aide ». J'ai compris depuis ce que cet évêque inspiré avait en tête. Il a vu en moi une occasion rêvée de préparer un détenteur de la prêtrise. Je suis sûr qu'il n'a pas vu dans le garçon sans formation que j'étais un futur membre de l'épiscopat président. Mais il m'a traité ce jour-là et tous les jours où je l'ai connu au cours des années comme un projet de préparation très prometteur. Il semblait aimer cela, mais cela représentait du travail pour lui. Quand nous sommes rentrés de notre visite chez la veuve, il a garé sa voiture. Il a ouvert ses écritures, abondamment annotées, et dont on voyait qu'elles avaient beaucoup servi. Il m'a corrigé avec bienveillance. Il m'a dit qu'il fallait que j'étudie et que j'apprenne davantage. Mais il a dû voir que j'étais assez faible et assez simple pour être réceptif. Je me rappelle encore ce qu'il m'a enseigné cet après-midi. Mais surtout, je me rappelle combien il était confiant que je pouvais apprendre et m'améliorer, et que je m'améliorerais. Au-delà de ce que j'étais à ce moment-là, il a vu les possibilités qui résidaient en quelqu'un qui se sentait faible, était assez simple, pour désirer l'aide du Seigneur et croire qu'elle lui serait donnée. Les évêques, les présidents de mission et les pères peuvent choisir de faire jouer ces possibilités. J'ai vu cela se produire récemment quand un président de collège de diacres a rendu son témoignage dans une réunion de jeunes. Il allait devenir instructeur et quitter les membres de son collège. Il a témoigné, la voix empreinte d'une grande émotion, que la bonté et le pouvoir des membres de son collège avaient beaucoup grandi. Il les a félicités pour leur service. Jamais entendu quelqu'un louer une organisation aussi merveilleusement bien. Puis il a dit qu'il savait qu'il avait pu aider les nouveaux diacres quand ils se sentaient dépassés par leurs responsabilités, parce qu'il avait ressenti la même chose quand il avait reçu la prêtrise. Sa conscience de sa faiblesse l'avait rendu plus patient, plus compréhensif, et par conséquent plus à même de fortifier et de servir les autres. En 2 ans, au sein de la prêtrise d'Aaron, il avait acquis de l'expérience et de la sagesse. Il avait appris qu'il avait été aidé en tant que président de collège par le souvenir vif de ses propres besoins quand il avait 2 ans de moins. La difficulté pour lui, comme pour nous, sera quand ses souvenirs s'estomperont avec le temps et la réussite. Paul a dû voir ce danger chez son jeune compagnon dans la prêtrise, Timothée. Il l'a encouragé et lui a donné des instructions quant à sa préparation dans la prêtrise et à la manière d'aider le Seigneur à en préparer d'autres. Vous avez dû entendre cette écriture 3 fois aujourd'hui, si vous avez fait attention. Souvenez-vous toujours. Ce n'est pas pour vous ennuyer, mais c'est vraiment de l'inspiration. Faites attention. Si on m'a demandé de faire ceci encore, ça doit vraiment avoir de l'importance. Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ce bon conseil de Paul vaut pour nous tous. Ne vous y inquiétez pas de votre manque d'expérience, mais pensez à ce que vous pouvez devenir avec l'aide du Seigneur. L'enseignement auquel Paul nous exhorte à nous appliquer dans notre préparation, dans la prêtrise et la parole du Christ, il nous exhorte ainsi à nous qualifier pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, nous pourrons savoir ce que le Seigneur veut que nous fassions dans notre service, et nous recevrons le courage de le faire, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouverons. On nous prépare au service dans la prêtrise, qui deviendra de plus en plus difficile avec le temps. Nos muscles et notre corps vieillissent comme nous, nos cerveaux, notre capacité d'apprendre et de nous souvenir de ce que nous avons lu diminuera. Pour rendre le service dans la prêtrise que le Seigneur attend de nous, il nous faudra de plus en plus de discipline de nous-mêmes chaque jour de notre vie. Nous pouvons nous préparer à cette épreuve en édifiant notre foi par le service continuel. Le Seigneur nous a donné la possibilité de nous préparer parce qu'il a appelé le serment est l'alliance de la prêtrise. C'est une alliance que nous contractons avec Dieu de respecter tous ses commandements et de rendre service comme il le ferait s'il était personnellement présent. Vivre à ce niveau nous donnera la force spirituelle dont nous aurons besoin pour persévérer jusqu'à la fin. De grands formateurs dans la prêtrise m'ont montré comment édifier cette force. Cela consiste à prendre l'habitude de persévérer, malgré l'épuisement et la peur qui peuvent vous faire envisager d'abandonner. Les grands guides du Seigneur m'ont montré que l'endurance spirituelle s'acquiert en travaillant au-delà du point où d'autres auraient pris du repos. Vous, grands dirigeants de la prêtrise, qui vous êtes constitué cette force spirituelle dans votre jeunesse, vous la possédez encore quand votre force physique diminue. Mon frère cadet se trouvait dans une petite ville d'Utah pour affaires. Il a reçu un coup de téléphone à son hôtel du président Spencer W. Kimball. Il était tard. La journée de travail avait été longue pour mon frère, et sûrement pour le président Kimball, qui a commencé la conversation téléphonique comme ceci. « J'ai appris que vous êtes en ville. Je sais qu'il est tard et que vous êtes peut-être couché. Mais est-ce que vous pourriez m'aider ? J'ai besoin que vous m'accompagniez en ville pour voir l'état de toutes nos églises dans la ville. » Mon frère l'a accompagné ce soir-là, sans rien connaître en l'entretien des églises, sans savoir pourquoi le président Kimball voulait faire cela après sa longue journée, ni pourquoi il avait besoin d'aide. Des années plus tard, j'ai reçu un appel semblable, tard le soir, dans un hôtel au Japon. J'étais à l'époque le nouveau commissaire à l'éducation de l'Église. Je savais que le président Gordon B. Hinckley était dans le même hôtel pour son appel au Japon. Le téléphone a sonné alors que je venais de me mettre au lit, épuisé, après avoir fait tout ce que je pensais avoir la force de faire. J'ai décroché. Le président Hinckley m'a demandé de sa voix aimable, « Pourquoi dormez-vous ? » Alors que je lis un manuscrit qu'on nous a demandé de réviser. Alors je me suis levé et je me suis mis au travail. Bien que sachant que le président Hinckley était mieux qualifié que moi pour réviser un manuscrit. Mais il m'a donné le sentiment qu'il avait besoin de mon aide. À la fin de presque chaque réunion, le président Monson demande au secrétaire de la première présidence, « Est-ce que je suis à jour de mon travail ?» Et il sourit toujours quand le secrétaire lui répond, « Oui, président, vous êtes à jour. » Le sourire satisfait du président Monson m'adresse un message. Il me fait me demander, « Y a-t-il quelque chose de plus que je puisse faire dans mon appel ?» Alors, je retourne dans mon bureau pour travailler. De grands maîtres m'ont montré comment me préparer à respecter le serment et l'alliance quand le temps et l'âge ajoutent à la difficulté. Ils m'ont montré et m'ont enseigné comment me discipliner pour travailler plus dur que je ne m'en croyais capable, pendant que j'ai encore la santé et de la force. Je ne peux pas être un serviteur parfait à chaque heure, mais je peux faire plus d'efforts que je ne m'en croyais capable. Grâce à cette habitude acquise plus tôt, je serai préparé pour les épreuves qui viendront plus tard. Vous et moi pouvons être préparés en ayant la force de respecter le serment et l'alliance au milieu des épreuves qui ne manqueront pas de venir vers la fin de la vie. J'en ai vu une preuve lors d'une réunion du conseil d'administration de l'éducation de l'Église. Le président Spencer W. Kimball avait donné des années de service tandis qu'il subissait une série de problèmes de santé que seul Job pourrait comprendre. Il présidait la réunion ce matin-là. Soudain, il s'est arrêté de parler. Il s'est affaissé sur sa chaise. Ses yeux sont fermés. Sa tête est tombée sur sa poitrine. J'étais assis à côté de lui. Frère Holland était près de nous. Nous sommes levés tous les deux pour l'aider. Inexpérimentés comme nous l'étions, nous avons décidé de le porter. Encore assis sur sa chaise, dans son bureau tout proche. Et c'était une chaise bien lourde. Dans ce moment où il était en grande détresse, il nous a donné une leçon. L'un et l'autre, nous avons soulevé à côté de sa chaise et nous sommes sortis dans le couloir, dans le bâtiment administratif de l'église. Il a ouvert, admis les yeux. manifestement encore étourdi, et a dit, « S'il vous plaît, faites attention, ne vous faites pas mal au dos. » Comme nous approchions de la porte de son bureau, il a dit, « Je suis très mal à l'aise d'avoir interrompu la réunion. » Quelques minutes après être arrivé dans son bureau, sans même savoir quel était son problème, il a levé les yeux vers nous et nous a dit, « Vous ne croyez pas que vous devriez retourner à cette réunion ?» Nous sommes hâtés d'y retourner, sachant qu'il devait importer au Seigneur que nous y soyons. Depuis son enfance, le président Kimball était allé au-delà de ses limites pour servir et aimer le Seigneur. Cette habitude était devenue une seconde nature, si bien qu'elle était là quand il en avait besoin. Il était préparé. Ainsi, il a été en mesure de nous enseigner, de nous montrer comment être préparé à respecter le serment et l'alliance de la prêtrise par une préparation constante au cours des années, en faisant appel à toute notre force dans des tâches pouvant sembler petites et aux petites conséquences. Ma prière est que nous respections nos alliances de la prêtrise afin de nous qualifier, nous et toutes les personnes que nous sommes appelés à former, pour la vie éternelle. Je vous promets que si vous faites tout ce que vous pouvez, Dieu accroîtra votre force et votre sagesse. Il vous fera mûrir. Je vous promets que ceux que vous formez et pour lesquels vous formez un exemple réussiront. Je témoigne que Dieu le Père vit et qu'il vous aime. Il vous connaît. Lui et son Fils ressuscité, glorifié, Jésus-Christ, sont apparus à un garçon sans expérience, Joseph Smith. Ils lui ont confié le rétablissement de la plénitude de l'Évangile et de la véritable Église. Ils l'ont encouragé quand il en avait besoin. Ils lui ont fait sentir une réprimande empreinte d'amour quand elle l'abaisserait afin de l'élever. Ils l'ont préparé et ils nous préparent afin que nous ayons la force d'œuvrer pour obtenir la gloire céleste, qui est le but et la raison d'être de tout service dans la prêtrise. Je vous donne ma bénédiction. Vous serez à même de reconnaître les magnifiques possibilités que Dieu vous a données en vous appelant et en vous préparant à son service et au service d'autrui. Au nom de notre chef et de notre maître aimant, Jésus-Christ. Amen.
Nous vous rappelons que l'émission du Cœur du Tabernacle aura lieu demain matin de 9h30 à 10h, heure d'été de Salt Lake City. La session du dimanche matin suivra immédiatement. Nous remercions le Cœur ainsi que les frères qui nous ont adressé la parole ce soir. Nous allons maintenant avoir l'honneur d'entendre notre prophète bien-aimé Thomas Monson. Après le discours du président Monson, le Cœur chantera « Vrai disciple du Seigneur ». Ensuite, Koichi Aoyagi, des 70, fera la prière de clôture. Président Monson.
Mes frères bien-aimés, c'est une immense bénédiction d'être avec vous ce soir. Nous qui détenons la prêtrise de Dieu, nous constituons une grande unité, une grande fraternité. Nous lisons au verset 36 de la section 121 de Doctrine et Alliance que les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Fin de citation. Quel don merveilleux nous a été fait, celui de détenir la prêtrise qui est inséparablement liée au pouvoir du ciel. Toutefois, ce don précieux s'accompagne non seulement de bénédictions spéciales, mais aussi de responsabilités solennelles. Nous devons mener notre vie de manière à être toujours dignes de la prêtrise que nous détenons. Nous vivons à une époque où nous sommes entourés de beaucoup de choses destinées à nous inciter à suivre des voies qui peuvent nous conduire à la destruction. Pour les éviter, il faut faire preuve de détermination et de courage. Je me rappelle une époque, et certains d'entre vous ici, ce soir, se le rappelleront aussi, où les principes de la plupart des gens étaient très semblables aux nôtres. Ce n'est plus vrai. Récemment, j'ai lu dans le New York Times un article sur une étude menée pendant l'été 2008. Un éminent sociologue de l'Université Notre-Dame, à la tête d'une équipe de chercheurs, a mené une enquête approfondie auprès de 230 jeunes adultes de tous les États-Unis. Je crois que nous pouvons supposer sans risque que les résultats seraient similaires dans la plupart des régions du monde. Je vais vous lire un extrait de cet article révélateur. Je cite. Les enquêteurs ont posé des questions ouvertes sur le bien et le mal, les problèmes moraux et le sens de la vie. Dans les réponses décousues, on voit les jeunes tâtonner pour essayer de dire quelque chose de sensé sur ces sujets. Mais il leur manque tout simplement les catégories et le vocabulaire pour le faire. Quand on leur demande de décrire un problème moral qui s'était posé à eux, deux tiers des jeunes soit n'ont pas pu répondre à la question, soit ont décrit des problèmes qui n'étaient pas du tout moraux, par exemple, qui n'avaient pas les moyens de louer un tel appartement ou qui n'avaient pas assez de monnaie pour mettre dans le parc-mètre. L'article poursuit, je cite, « La position d'esquive à laquelle la plupart d'entre eux n'ont cessé de recourir, c'est que les choix d'ordre moral ne sont qu'affaires de goût personnel. » C'est personnel, ont-ils généralement répondu. C'est à l'individu de décider. Qui suis-je pour le dire? Rejetant le respect aveugle de l'autorité, beaucoup des jeunes sont passés de l'autre extrême à l'autre extrême, en disant « Je ferai ce qui semblera pouvoir me rendre heureux » ou « D'après ce que je ressentirai, je n'ai pas d'autre moyen de savoir quoi faire, à part l'impression que j'aurai. » Fin de citation. Les enquêteurs ont souligné que la majorité des jeunes avec qui ils avaient parlé n'avaient pas reçu de l'école, des institutions ou de leur famille les moyens nécessaires pour cultiver leurs intuitions morales. Fin de citation. Mes frères, nul parmi ceux qui sont à portée de ma voix ne devrait avoir le moindre doute quant à ce qui est moral et à ce qui ne l'est pas, ni à propos de ce qui est attendu de nous, détenteurs de la prêtrise de Dieu. On nous a enseigné et on continue de nous enseigner les lois de Dieu. Quoi que vous puissiez voir ou entendre ailleurs, ces lois ne changent pas. Au fil de notre vie quotidienne, il est presque inévitable que notre foi soit attaquée. Nous pouvons parfois nous trouver entourés de gens et pourtant faire partie de la minorité, ou même être seul dans notre point de vue sur ce qui est acceptable et ce qui n'est pas. Avons-nous le courage moral de défendre fermement nos croyances, même si, ce faisant, nous devons être seuls? Nous, détenteurs de la prêtrise de Dieu, il est essentiel que nous soyons capables d'affronter avec courage toutes les difficultés qui peuvent se présenter. Souvenez-vous des paroles de Tennyson. J'ai la force de 10 parce que j'ai le cœur pur. Fin de citation. De plus en plus, des célébrités et d'autres qui, pour une raison ou pour une autre, sont connus du public, ont tendance à se moquer de la religion en général et parfois de l'Église en particulier. Si notre témoignage n'est pas assez fermement enraciné, ces critiques peuvent nous amener à douter de nos croyances ou affaiblir notre résolution. Dans la vision qu'a eue Léhi de l'arbre de vie, rapportée dans 1er Néphi, chapitre 8, Léhi voit, entre autres, les gens qui se tiennent à la barre de fer jusqu'à ce qu'ils arrivent à prendre du fruit de l'arbre de vie, qui, nous le savons, est une représentation de l'amour de Dieu. Puis, malheureusement, après avoir mangé du fruit, certains ont honte à cause des gens qui sont dans le grand et spacieux édifice, qui représentent l'orgueil des enfants des hommes, qui démontrent du doigt et se moquent d'eux. Et ils tombent dans des sentiers défendus et se perdent. Quel puissant outil de l'adversaire est le ridicule, la moquerie. Je vous le redemande, mes frères. Avons-nous le courage de rester forts face à cette opposition difficile? Je crois que la première occasion où j'ai dû avoir le courage de mes convictions a eu lieu quand je servais dans la marine des États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La période des classes dans la marine n'a pas été facile pour moi, ni pour personne. Pendant les trois premières semaines, j'ai été convaincu que ma vie était en danger. La marine n'essayait pas de me former. Elle essayait de me tuer. Je me souviendrai toujours du premier dimanche après la première semaine. Le quartier-maître nous a annoncé une bonne nouvelle. Au garde-à-vous sur le terrain d'exercice, sous une brise californienne vive, nous avons entendu son ordre. Aujourd'hui, tout le monde va à l'église. Tout le monde sauf moi. Je vais me relaxer. Puis il a crié. Tous les catholiques, réunion au camp de Cature. Et ne revenez pas avant 3 heures. En avant, marche. Un groupe assez nombreux est parti. Puis il a aboyé. Les juifs, réunion au camp Henri. Et ne revenez pas avant 3 heures. En avant, marche. Un groupe un peu plus petit est parti. Puis il a crié. Tous les protestants, réunion au théâtre du camp Farragut, et ne revenez pas avant 3 heures. En avant marche. Immédiatement, une pensée m'a traversé l'esprit. Monson, tu n'es pas catholique, tu n'es pas juif, tu n'es pas protestant, tu es mormon. Donc, tu ne bouges pas. Je peux vous dire que je suis content d'être vivant aujourd'hui. Je peux vous assurer que je me suis senti complètement seul. Courageux, déterminé, oui, mais seul. Puis j'ai entendu les mots les plus doux que ce quartier maître devait prononcer. Il a regardé ma direction et a demandé, « Et vous les gars, vous êtes quoi ?» C'est alors que j'ai compris que je n'étais pas seul sur le terrain d'entraînement. Presque à l'unisson, nous avons tous répondu « Mormon !» Je peux à peine décrire la joie qui a rempli mon cœur lorsque je me suis retourné et que j'ai vu une poignée d'autres marins. Le quartier maître s'est gratté la tête, l'air perplexe, mais a dit finalement, « Bon, trouvez-vous un coin pour vous réunir et ne revenez pas avant 3 heures. » En avant, marche. Quand nous sommes partis, j'ai pensé aux paroles d'une poésie que j'avais apprise à la primaire bien des années avant. Ose être mormon. Ne crains pas d'être seul. Ose avoir un objectif ferme. Ose le faire savoir. Bien que les choses se soient finalement passées autrement que ce à quoi je m'attendais, j'avais été disposé à être seul si nécessaire. Depuis ce jour, à plusieurs occasions, je me suis retrouvé sans personne derrière moi, et j'ai donc vraiment eu à faire seul face. Combien je suis reconnaissant d'avoir pris la décision il y a longtemps de demeurer ferme et fidèle, toujours préparé et prêt à défendre ma religion en cas de besoin. Pour le cas où il nous arriverait de ne pas nous sentir à la hauteur des tâches d'avenir, frère, je vais vous citer une déclaration faite en 1987 par le président de l'époque, président de l'église de l'époque, Joseph Benson, devant une grande assemblée de membres en Californie. Il a déclaré, « Depuis la nuit des temps, les prophètes ont vu notre époque. Des milliards de personnes décédées et de personnes à naître ont les regards tournés vers nous. Ne vous y trouverez pas ?» Vous êtes une génération de marque. Pendant près de 6000 ans, Dieu vous a gardé en réserve pour que vous paraissiez dans les derniers jours précédant la seconde venue du Seigneur. Certaines personnes apostasieront, mais le royaume de Dieu demeurera intact pour accueillir le retour de celui qui en est le chef, à savoir Jésus-Christ. Bien que la méchanceté de cette génération soit comparable à celle de la génération de Noé, quand le Seigneur a purifié la terre par le déluge, il y a une différence importante cette fois-ci. Dieu a gardé pour la dernière ligne droite certains de ses enfants les plus forts qui aideront à assurer le triomphe du royaume. Fin de citation. Oui, frères, nous sommes certains de ses enfants les plus forts. Nous avons la responsabilité d'être dignes de toutes les bénédictions glorieuses que notre Père Céleste a en réserve pour nous. Chaque fois que nous allons quelque part, notre prêtrise nous accompagne. Nous tenons-nous en des lieux saints, s'il vous plaît, avant que vous ne vous mettiez, vous et votre prêtrise, en danger, en vous aventurant dans des lieux ou en prenant part à des activités qui ne sont pas dignes de vous ou de cette prêtrise, arrêtez-vous pour penser aux conséquences. La prêtrise d'Aaron a été conférée à chacun d'entre nous. À cette occasion, chacun de nous a reçu le pouvoir qui détient les clés du ministère d'ange. Gordon Binkley a dit, « Vous ne pouvez pas vous permettre de faire quoi que ce soit qui fasse écran entre vous et le ministère d'ange en votre faveur. Vous ne pouvez vous livrer à aucune activité morale. Vous ne pouvez pas être malhonnête. Vous ne pouvez pas tricher ni mentir. Vous ne pouvez pas prendre le nom de Dieu en vain ou employer un langage grossier et conserver quand même le droit au ministère d'ange. » Fin de citation. Si l'un de vous a trébuché en chemin, je veux que vous compreniez sans l'ombre d'un doute qu'il y a un moyen de revenir en arrière. Il y a un moyen de revenir en arrière. Ce processus s'appelle le repentir. Notre Sauveur a donné sa vie pour nous offrir ce don sacré à vous et à moi. Le chemin du repentir n'est pas facile. Toutefois, les promesses sont réelles. Il nous a été dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et je ne m'en souviendrai plus. Quelle déclaration, quelle bénédiction, quelle promesse. Il en est peut-être parmi vous qui pensent au fond d'eux, eh bien, je ne vis pas tous les commandements et je ne fais pas tout ce que je dois. Pourtant, ma vie se passe plutôt bien. Je pense que je peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Frère, je vous promets que ça ne marchera pas sur le long terme. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre d'un homme qui pensait auparavant qu'il pouvait avoir ce double avantage. Il s'est depuis repenti et a mis sa vie en accord avec les principes de l'Évangile et avec les commandements. Je vais vous lire un paragraphe de sa lettre, parce qu'il illustre la réalité d'un mauvais raisonnement. Je cite, « J'ai dû apprendre par moi-même, à mes dépens, que le Sauveur avait absolument raison quand il disait « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » J'ai essayé de toutes mes forces de faire les deux. Au bout du compte, il ne me restait que le vide, les ténèbres et la solitude que Satan réserve à ceux qui croient à ses tromperies, ses illusions et ses mensonges. Pour que nous soyons forts et résistions à toutes les forces qui nous tirent dans la mauvaise direction, ou à toutes les voies qui nous encouragent à prendre le mauvais chemin, nous devons avoir notre propre témoignage. Que vous ayez 12 ans ou 112, ou n'importe quel âge entre les deux, vous pouvez savoir par vous-même que l'évangile de Jésus-Christ est vrai. Lisez le livre de Mormon, méditez sur ses enseignements, demandez à notre Père Céleste s'il est vrai. Nous avons la promesse que si nous lui demandons d'un cœur sincère, avec une attention réelle, ayant foi au Christ, il nous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Fin de citation. Quand nous savons que le livre de Mormon est vrai, il s'ensuit que Joseph Smith était véritablement un prophète et qu'il a vu Dieu, le Père éternel, et son Fils, Jésus-Christ. Il s'ensuit que l'Évangile a été rétabli dans ces derniers jours grâce à Joseph Smith, y compris le rétablissement de la prêtrise d'Aaron et de la prêtrise de Melchisédek. Une fois que nous avons un témoignage, il nous incombe de le rendre aux autres. Beaucoup d'entre vous, frères, ont fait une mission dans le monde. Beaucoup d'entre vous, jeunes gens, iraient servir. Préparez-vous maintenant pour cette occasion. Assurez-vous d'être digne de servir. Si nous sommes préparés à parler de l'Évangile, nous serons prêts à répondre au conseil de l'apôtre Pierre qui nous a lancé cette exhortation. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Nous aurons des occasions dans notre vie de parler de nos croyances, bien que nous sachions pas toujours quand nous serons appelés à le faire. J'ai eu une occasion de ce genre en 1957, quand je travaillais dans le métier de l'édition, et qu'on m'a demandé d'aller à Dallas, qu'on surnomme parfois la ville des églises, pour faire un discours à un congrès d'hommes d'affaires. À la fin de la conférence, j'ai fait une visite guidée en bus des banlieues de la ville. Tandis que nous passions devant les diverses églises, notre chauffeur commentait. À gauche, vous voyez l'église méthodiste. Ou à droite, c'est la cathédrale catholique. Quand nous sommes passés devant un beau bâtiment de briques rouges situé sur une colline, le chauffeur a dit, « C'est l'édifice où les mormons se réunissent. » De l'arrière du bus, une femme a demandé, « Chauffeur, pouvez-vous nous dire quelque chose sur les mormons ?» Le chauffeur a garé le bus dans la rue, s'est retourné sur son siège et a répondu, « Madame, tout ce que je sais sur les mormons, c'est qu'ils se réunissent dans ce bâtiment de briques rouges. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le bus qui sait quelque chose sur les mormons ?» J'ai attendu que quelqu'un réponde. J'ai observé l'expression du visage de chacun, guettant un signe de reconnaissance, une indication d'un désir de faire un commentaire. Rien. Je me suis rendu compte que c'était à moi de le faire. De faire ce que l'apôtre Pierre avait suggéré. Soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. J'ai vu alors combien est vrai l'adage. Quand le moment de décision est là, il n'y a plus de temps pour la préparation. Et je l'ai bien appris cette fois-là. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, j'ai eu l'honneur de rendre mon témoignage de l'Église et de nos croyances aux personnes dans le bus. J'étais reconnaissant de mon témoignage et d'avoir été prêt à le rendre. Je prie de tout mon cœur et de toute mon âme pour que chaque homme, et je vous regarde, vous qui êtes nombreux, que chaque homme qui détient la prêtrise honore cette prêtrise et soit fidèle au dépôt qui lui est confié quand elle lui est conférée. Puisse chacun de nous qui détenons la prêtrise de Dieu savoir en quoi il croit. Puissions-nous toujours être courageux et prêts à défendre ce en quoi nous croyons. Et si nous devons le faire seuls, puissions-nous le faire avec courage, étant fortifié par la connaissance qu'en réalité nous ne sommes jamais seuls quand nous sommes avec notre Père Céleste. Quand nous méditons sur le grand don qui nous a été fait, les droits de la prêtrise sont inséparablement liés au pouvoir du ciel. Puissions-nous toujours avoir la détermination de le protéger, de le défendre et d'être dignes de ses grandes promesses. Mes frères, puissions-nous suivre l'instruction du Sauveur rapportée dans 3e Néphi. Élevez votre lumière afin qu'elle brille pour le monde. Voici, je suis la lumière que vous élèverez, ce que vous m'avez vu faire. Puissions-nous toujours suivre cette lumière et l'élever pour que tout le monde la voie. C'est là ma prière et ma bénédiction pour tous ceux qui entendent ma voix. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Father, which are in heaven.
Notre Père qui est aux cieux, nous sommes tellement reconnaissants d'avoir pu assister à cette réunion de session de prêtrise ce soir. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu entendre des conseils inspirés, magnifiques, de nos frères, de la part de tes serviteurs ce soir. Veuille nous bénir pour que, à travers ce que nous avons ressenti, pour que nous puissions être des serviteurs entre tes mains, tandis que nous cherchons à magnifier notre prêtrise. Père, bénis-nous, s'il te plaît, pour que nous puissions servir avec joie et gratitude et reconnaissance. Nous sommes reconnaissants pour ton serviteur présent, Thomas Esmondson, et ses conseillers, les 12 apôtres et tous les autres officiers de l'Église. Bénis-les. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.